Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec vous, Marc-Aurèle Barrez. Au sommaire de cette édition, la tension monte au Moyen-Orient. L'armée israélienne se dit en alerte maximale. D'après l'Iran, les États-Unis cherchent à déclencher une nouvelle guerre. Paris convoque l'ambassadeur d'Israël en cause le comportement du ministre de la Sécurité intérieure israélien avec des militants de la flottille pour Gaza. Et dans votre dossier du jour, vous entendrez Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement sur les aides au carburant. Nous ferons aussi le bilan de la visite de Vladimir Poutine en Chine. Et enfin, Emmanuel Dupuis, spécialiste du Sahel, nous parlera de la situation plus qu'incertaine que connaît aujourd'hui le Mali. Nous le disions dans les titres, l'armée israélienne se dit en alerte maximale après le regain de tensions au Moyen-Orient. Selon le négociateur iranien en chef Mohammad Khalibaf, les États-Unis cherchent à déclencher une nouvelle guerre. Cela alors que l'Iran a promis mercredi d'étendre la guerre au-delà de la région du Moyen-Orient si Washington venait à nouveau à attaquer. Indignation internationale face aux conditions de détention des militants de la flottille pour Gaza. La France annonce convoquer l'ambassadeur d'Israël après, je cite, les agissements inadmissibles du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il a diffusé une vidéo de lui avec des militants pro-palestiniens agenouillés et les mains liées. Selon Benjamin Netanyahou, la manière dont son ministre a traité les militants n'est ni conforme aux valeurs et aux normes d'Israël. Fin de citation. Dans un tout autre volet, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était en visite aujourd'hui au Maroc. Il a rencontré son homologue Nasser Bourita. L'occasion pour les deux hommes d'annoncer une visite d'État du roi Mohamed VI en France. La date n'a cependant pas été communiquée. Et dans le reste de l'actualité, l'Union européenne devrait approuver ce mercredi une réforme majeure de sa politique migratoire. Elle devrait ouvrir la voie à la création de centres pour migrants hors territoire européen. Le texte inclut des règles et des sanctions plus strictes pour les migrants refusant de quitter l'Union. Alors enthousiasme des droites au Parlement et inquiétude à gauche qui juge le projet contraire au droit international. En France maintenant, le ministre de l'Intérieur annonce qu'une action judiciaire a été engagée concernant des soupçons d'ingérence étrangère pendant la campagne des municipales en mars dernier. Ce sont des candidats de la France insoumise qui auraient été visés. Laurent Nunez ajoute qu'un rapport concernant les ingérences constatées pendant le scrutin sera rendu public. Faire voter une loi contre la concentration des médias, c'est ce que veut faire la France insoumise en cas de victoire à la présidentielle. Information dévoilée aujourd'hui par Clémence Guettet pour la députée insoumise. Il s'agit d'une urgence. Elle a rappelé que 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias privés. Et pour terminer, après Édouard Philippe, c'est Dominique de Villepin qui se retrouve dans le viseur du parquet national financier. Une enquête préliminaire pour des chefs de recel de détournement de fonds publics a été ouverte. Elle concerne des statuettes reçues lorsqu'il était ministre et qu'il a ensuite conservé. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Face à la crise du carburant, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a pris la parole aujourd'hui. L'objectif de l'État, selon elle, trouver un juste équilibre entre soutien au pouvoir d'achat et respect des finances publiques. On l'écoute.
La philosophie ne va pas changer. L'objectif, c'est d'aider les secteurs d'activité, je l'ai dit, les plus exposés, d'être aux côtés des Français les plus précaires qui roulent beaucoup et d'arriver à trouver ce juste équilibre entre soutien au pouvoir d'achat et respect des finances publiques. Vous savez que nous avons cet objectif de 5% de déficit, il est important de le tenir parce que c'est en tenant cet objectif-là qu'on pourra demain investir dans les services publics, dans la transition énergétique dont on voit d'ailleurs quelle est la solution structurelle à la crise qu'on est en train de traverser, et je le redis à toute fin utile, l'argent que l'on dépense aujourd'hui, c'est de l'argent qu'il faut économiser demain, et donc dit autrement, ne créons pas aujourd'hui les impôts de demain, voilà, tout simplement. La philosophie ne changera pas, Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une logique de temporalité. Au fond, on a toujours dit qu'on adapterait les dispositifs autant que nécessaire, et donc on continue à le faire. On sera peut-être de nouveau amené à le faire dans les semaines et dans les mois à venir. Et encore une fois, on restera aux côtés des entreprises et des Français qui en ont le plus besoin.
C'était Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Quel bilan pour la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping? Le président russe est à Pékin ce mercredi. Un déplacement quelques jours seulement après le départ de Donald Trump. Il s'agit de raffermir ses liens avec son homologue chinois, François-Xavier de Calonne.
Oui, alors d'abord, sachez que les deux hommes se connaissent bien. Vous savez combien de fois ils se sont rencontrés, tous les deux comme présidents?
Aucune idée.
Eh bien, une quarantaine. Les présidents chinois et russes sont tenus à montrer que la visite de Donald Trump à Pékin la semaine dernière n'a en rien affecté leurs liens. Ils vont même se revoir en Chine en novembre pour le sommet de l'APEC et ensuite en Russie l'année prochaine en 2027. L'invitation est en tous les cas lancée. Alors au-delà de cette complicité, que s'est-il dit sur le plan géopolitique, Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine que le Moyen-Orient est un moment charnière. Le président chinois appelle à une fin rapide du conflit et il faut dire que l'enjeu est important. Il s'agit notamment de garantir les approvisionnements énergétiques. Une reprise des hostilités serait inopportune et poursuivre les négociations est plus essentiel que jamais, ce sont ces mots. Pékin et Moscou ont insisté sur la nécessité de dialogue entre les parties prenantes. Il y a donc une grande complicité, mais aussi marque quelques divergences. Exemple sur le détroit d'Ormuz, par où transite une grande partie des hydrocarbures destinés à la Chine. Pékin souhaite un retour rapide des flux commerciaux. Moscou pourrait voir dans la crise une occasion de promouvoir ses propres ressources énergétiques comme alternative. En clair, profiter de la guerre. Vladimir Poutine qualifie le secteur énergétique de locomotive de la coopération économique bilatérale et il ajoute que la Russie restera un fournisseur fiable pour la Chine dans le contexte de la guerre. La Chine est le premier acheteur de pétrole brut russe et le deuxième de gaz acheminé par pipeline.
L'agression russe en Ukraine a aussi été au menu des discussions.
Alors vous en doutez, Moscou n'utilise pas cette expression agression russe. La Russie et la Chine sont convaincus de la nécessité d'éliminer totalement les causes profondes de la crise ukrainienne, cela sur la base de la charte des Nations Unies. Elle préconise de continuer à rechercher une solution par la voie du dialogue et des négociations. Et là encore, Moscou va dans le sens de Pékin. La partie russe évalue positivement la position objective et impartiale de la partie chinoise, des mots du Kremlin. Alors de leur côté, les Occidentaux pressent Pékin d'user de son influence sur Moscou pour mettre fin au conflit. Ils reprochent à la Chine d'alimenter la machine de guerre russe avec ses achats d'hydrocarbures, on vient d'en parler, et ils l'accusent de fournir à la Russie des composants à double usage, potentiels civils et militaires. La Chine s'en défend, la Chine proclame sa neutralité, une neutralité qui n'en a que le nom, la Chine n'a jamais condamner l'invasion russe de l'Ukraine.
Merci beaucoup François-Xavier pour toutes ces précisions. La crise sécuritaire au Mali, le pays est la cible d'attaques d'une ampleur et d'une coordination inédite menée par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affilié à Al-Qaïda et le Front de libération de l'Azawad, un groupe composé d'indépendantistes du nord du Mali. Les civils qui vivent aussi dans la terreur des crimes de l'armée et des Russes. La situation dans le pays est plus qu'incertaine que jamais depuis fin avril. Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, spécialiste de la région. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Il nous fait part du caractère inédit et incertain de cette crise.
Incertitude, oui, bien sûr, avec un ultimatum qui a été posé par les deux mouvements que vous citiez, le Front de Libération pour l'Azawad ou le Front de Libération de l'Azawad au nord du pays qui a repris possession de la ville de Kidal et dont on dit qu'il serait sur le point de prendre possession de la ville de Sennaré, et puis au sud, autour de Bamako, le groupe de soutien à l'islam musulman, ou mouvement organisation liée à Al-Qaïda. Alors, incertitude, évidemment, pesée sur la population malienne et plus précisément sur les autorités maliennes. Si on se remet dans un passé un peu plus long, en 2012-2013, cette coagulation entre un mouvement irrédentiste Touareg et un mouvement djihadiste était exactement la même. À l'époque, le Front de Libération de l'Azawad s'appelait le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. Et à l'époque, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans était morcelé dans un certain nombre d'organisations qui avaient toutes prêté déjà allégeance à Al-Qaïda. Donc d'une certaine façon, on y a une sorte de retour sur un agenda dans lequel les groupes djihadistes, ou narco-djihadistes plutôt, et les organisations irrédentistes de la Zawad, réclamant donc une séparation avec l'État central malien, se sont coalisés. Ce qui est nouveau, c'est l'amplitude que désormais, mais l'idée selon laquelle une partie du territoire malien échappe bel et bien aux autorités issues du coup d'État militaire de 2020, avec une autre particularité nouvelle, c'est l'éparpillement, à savoir que ces groupes armés djihadistes agissent non seulement au Mali, mais agissent également au Niger, au Burkina Faso, avec une autre nouveauté, si j'ose le dire ainsi, une superposition ou une dualisation avec d'un côté des mouvements qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres qui sont affiliés à l'État islamique, qui n'ont pas forcément les mêmes agendas. En tout cas, l'État islamique dans le Grand Sahara n'était pas à la manœuvre dans les opérations ayant frappé à la fois Bamako et les villes du nord du Mali.
Les forces armées maliennes soutenues par le groupe l'Africa Corse, le groupe qui lui-même commet des exactions.
Otto Wagner était une société militaire privée qui officiellement n'avait pas de contact avec le ministère de la Défense, autant le groupe paramilitaire de l'Africa Corps est une émanation des services de renseignement russes, avec une forme de laisse encore plus courte qui conforte l'idée que la Russie était plus à la manœuvre aujourd'hui qu'elle ne fut par le passé. Mais vous avez raison, on a pu constater que les troupes russes qui commettent des exactions, cette fois-ci, n'ont pas beaucoup aidé les forces maliennes, puisqu'on a la preuve avec des images de contingents des supplétifs, donc des sous-traitants russes, qui quittaient les garnisons de Kidal et de Sévaré sans mener le combat contre dont ils étaient pourtant chargés d'empêcher de nuire.
Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE et spécialiste de la région sahélienne. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Alexandre Ward pour la réalisation et excellente suite des programmes sur Radio Orient.